Nous lisons au deuxième livre des Rois, au chapitre 2, les versets 1 à 14. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent tous deux leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. » Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des cheveux de feu. Comme il continua à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait, criait, « mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit, « Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie ?» Lui aussi, il frappa les eaux, qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa.
Nous lisons maintenant les derniers versets du chapitre de l'Évangile selon Luc. Jésus les emmena vers Béthanie, puis il leva les mains et les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Quant à eux, après s'être prosternés devant lui, ils retournèrent à Jérusalem, avec une grande joie. Ils étaient constamment dans le temple et bénissaient Dieu. Et dans le livre des Actes des Apôtres, au premier chapitre, les versets 1 à 11. Cher Théophile, j'ai parlé dans mon dernier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner jusqu'au jour où il fut enlevé après avoir donné ses ordres par l'Esprit Saint aux apôtres qu'il avait choisis. C'est eux aussi qu'avec beaucoup de preuves, il se présenta vivant après avoir souffert. Il leur apparut pendant 40 jours, parlant du règne de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur enjoignit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce dont leur dit-il, « Vous m'avez entendu parler. » Jean a baptisé d'eau, mais vous, c'est un baptême dans l'Esprit Saint que vous recevrez d'ici peu de jours. » Ceux qui s'étaient réunis lui demandaient, « Seigneur, est-ce qu'en ce temps que tu vas rétablir, est-ce qu'en ce temps vas-tu rétablir le royaume pour Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître le temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez la puissance quand l'Esprit Saint viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, pendant qu'il regardait, il fut élevé et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il fixait le ciel, pendant qu'il s'en allait, deux hommes en habit blanc se présentèrent à eux et dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à scruter le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé au ciel de milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. »
Le récit de l'ascension du prophète Élie, qu'on a entendu en première lecture, ce récit mériterait à lui seul, bien sûr, une longue prédication. Je voudrais juste en parler brièvement aujourd'hui, parce que malgré des différences évidentes que vous n'avez pas pu ne pas remarquer, il me semble qu'il peut éclairer aussi un peu notre interprétation de l'ascension de Jésus lui-même. Ce récit appartient au genre littéraire qu'on appelle le ravissement céleste, et c'est un genre littéraire en fait assez présent dans la littérature juive. On en trouve déjà un exemple dans l'Ancien Testament avec l'enlèvement d'Hénoc, et plusieurs autres exemples dans l'Ancien Testament en grec, la Bible grecque. Ceux donc des textes qui ne figurent pas toujours dans nos Bibles protestantes ou alors, vous le savez, sous l'appellation écrits apocryphes, écritures apocryphes. Mais nous pouvons lire ce texte de différentes façons, qui ne s'opposent pas mais se complètent. Et la première, c'est de se rappeler qu'Élie est un prophète dont la vie est souvent menacée. À cause de son franc-parler, de ses malédictions efficaces contre les idolâtres adorateurs du Baal, c'est le dieu concurrent, voilà, du dieu d'Israël à l'époque, le dieu de Canaan, Élie est censé avoir tué ou fait tuer un grand nombre de leurs prêtres. À cause de toutes ces malédictions et aussi de ces malédictions envers les puissants d'Israël qui trahissent leur dieu en allant justement consulter les prêtres du Baal, à cause de tout ça, Élie est souvent menacé. Et donc, il a pris l'habitude d'apparaître et de disparaître sans prévenir. Par exemple, si vous cherchez dans le premier livre des Rois au chapitre 8. Et justement, là, sa disparition, qui est racontée comme une ascension, eh bien, cette disparition a lieu juste après un épisode particulièrement spectaculaire. Élie vient de maudire Achazias, le roi de Samarie. Ce roi s'était blessé et au lieu d'aller consulter un prophète Dieu d'Israël, il a envoyé consulter le Baal. Et donc Élie a maudit ce roi en lui prédisant qu'il allait mourir. Et Achazias est mort. Et il est probable, bien sûr, que certains tiennent le prophète pour responsable de cette mort. Et donc le prophète a peut-être tout intérêt à disparaître, à se sauver, en tout cas. Et dans ce cas, pardonnez-moi pour cette interprétation un peu triviale peut-être, mais dans ce cas, le récit de son ascension serait d'abord la réécriture magique d'une fuite bien orchestrée. Et à l'appui de mon hypothèse, vous pourrez lire dans les versets qui suivent, qu'on n'a pas entendu, que à la suite de cette ascension racontée par Élisée, quand il retrouve les fils des prophètes qui disaient « Ton maître va être enlevé, ton maître va être enlevé », eh bien, les fils des prophètes voudraient bien traverser le Jourdain pour aller retrouver, aller à la recherche d'Élie. Mais Élisée fait tout pour les en dissuader. Finalement, ils y vont, ils ne le retrouvent pas. Bon, tout va bien. Mais bon, c'est une possibilité, une hypothèse. Mais dans cette réécriture magique, il y a une deuxième manière de lire ce texte, c'est d'insister sur la transmission prophétique à travers les éléments symboliques qui vont établir Élisée comme un véritable prophète, on l'a entendu. La double part d'esprit, comme la double part offerte donnée au fils aîné au moment de l'héritage, selon la loi du Deutéronome. Et plus important, la capacité d'Élisée à percevoir et interpréter les signes dans le monde spirituel. C'est comme ça qu'on peut comprendre « si tu me vois lorsque je serai emporté ». Ce serait un signe que Élisée peut percevoir des signes du monde spirituel. Et bien sûr, il y a le manteau, on l'a entendu, le manteau ramassé par Élie pour accomplir le signe décisif et traverser le Jourdain. Mais je voudrais aussi vous proposer une troisième lecture de ce passage, rapidement, en regardant ce que le texte nous laisse entendre sans le dire. Il se passe beaucoup de choses entre Élie, Élisée et les fils de prophètes qui reviennent les harceler. Et Cécile a essayé, dans sa lecture, de le mettre en évidence. On en connaît tous des gens comme ça. En foule, ils sont encore pires. Tellement heureux de claironner la mauvaise nouvelle. « Hé, Élisée, tu sais, ton maître n'en a plus pour longtemps à être avec toi. » Sous-entendu, même, il n'en a peut-être plus pour longtemps tout court. Eh bien, il y a quelque chose de très émouvant dans ce texte, qui passe justement par ce qui n'est pas dit, par ce qu'on appelle le non-dit. Élie sait qu'il doit disparaître et il ne veut pas attrister son disciple Élisée. Donc, il essaye de s'en séparer à chaque étape en allant plus loin. Et Élisée aussi connaît la vérité, mais il ne sait pas qu'Élie la connaît. Et chaque fois que les autres, les fils de prophètes, viennent faire les malins, il leur dit de se taire pour qu'Élie ne les entende pas. Je le sais aussi, taisez-vous. Donc, en fait, c'est une très belle histoire dans laquelle chaque personnage essaie de protéger l'autre. Et bien sûr, si le don de l'esprit est symbolisé par des éléments magiques qu'on a entendus, je crois qu'il passe d'abord par les sentiments humains les plus nobles. Et dans ce texte, ils sont mis en évidence. Respect, fidélité, assistance. Et justement, ce sont ces sentiments qui vont permettre la véritable filiation. C'est parce que, effectivement, Élisée a en lui l'esprit d'Élie qu'il pourra devenir prophète à son tour. Car l'absence nous permet aussi, de quelquefois, de grandir. En particulier, bien sûr, l'absence d'un maître à vivre ou à penser. Alors vous allez me dire, d'accord, mais à part cette absence, dans une disparition magique, quel rapport entre l'ascension du prophète Élie et celle de Jésus. Et c'est vrai que le récit de l'ascension de Jésus, même s'il s'inspire des élévations des prophètes de la Bible hébraïque et de la Bible grecque, s'inspire encore plus, on ne le sait pas toujours, et je l'ai en fait appris, j'en avais entendu parler, mais je l'ai redécouvert en préparant cette prédication, il s'inspire encore plus de la tradition gréco-romaine dans laquelle on trouve de nombreuses apothéoses. Romulus, Héraclès, Alexandre le Grand, Jules César et bien d'autres. L'apothéose permettait au Sénat d'affirmer la divinité de l'empereur défunt. Mais pour être validée, il fallait soit des témoins oculaires prêts à prêter serment, dire oui. J'ai vu tel personnage disparaître, être emporté, même au-dessus de son bûcher. J'ai vu quelque chose du type de l'apothéose. Soit il fallait, alors ça c'était peut-être plus facile à réaliser ou à obtenir, il fallait qu'un aigle s'envole du bûcher funéraire. Bon, vous voyez pourquoi c'est plus facile à réaliser. C'était quand même... Donc il fallait ces attestations, il fallait que ce soit devant témoins. Et l'ascension de Jésus, en un sens, s'inscrit aussi dans cette tradition. Donc Luc prend soin de l'inscrire dans les deux traditions, la tradition juive et la tradition gréco-romaine, avec la présence de témoins. Donc toutes ces indications, ajoutées au fait donc que Luc est le seul à raconter l'ascension de Jésus, même Paul n'en parle pas de cet événement pourtant important et fondateur s'il avait eu lieu. Hein. Eh bien, ces indications et le fait que Luc soit le seul à en parler permettent à beaucoup de théologiens, et en particulier par exemple Daniel Marguerat, que j'ai cité la semaine dernière parce qu'il a consacré un gros travail au livre des Actes des Apôtres, eh bien même Daniel Marguerat, non pas met en doute mais carrément nie la réalité de l'événement Ascension, la réalité historique de l'événement Ascension. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, même si nous avons des difficultés, nous pouvons être proches de cet avis-là. Mais le fait de nier la réalité historique de l'événement tel qu'il est raconté, loin de nuire à notre lecture, au contraire, cette conviction ne retire au récit ni sa beauté, ni sa profondeur spirituelle. Les humains recherchent Dieu au ciel depuis qu'ils sont humains, c'est-à-dire depuis qu'ils se tiennent debout et qu'ils peuvent lever la tête vers le ciel. Et on en parlait hier avec le groupe Évangile et Liberté, de cette recherche qui nous traverse, cette recherche qu'on appelle habituellement la transcendance. Et voilà que dans cette recherche, une nouveauté infiniment libératrice s'est produite. En Jésus, par Jésus, l'amour de Dieu a adopté notre propre condition humaine. Jésus est venu combler la distance qui nous séparait jusqu'alors de ce Dieu installé là-haut, ce Dieu qui devait se pencher, comme dans les psaumes, pour voir les humains et leur parler, ce Dieu qui était trop haut pour que nous le connaissions vraiment. Et pourtant, dans cette histoire, voilà que la relation de Jésus avec ses disciples, sa présence parmi eux, parmi nous, avec nous, eh bien, à partir de Pâques en particulier, c'est une histoire très compliquée. Les femmes le prennent pour le jardinier, les disciples le rencontrent sans le reconnaître, à peine ils l'ont reconnu qu'il disparaît à leurs yeux. Et quand enfin, comme là on vient de l'entendre, ils l'ont reconnu, ils se tiennent enfin heureux en sa présence, à nouveau dans l'attente d'une intervention efficace de sa part, eh bien c'est justement le moment où ils le perdent. Une nuée le dérobe à leurs yeux. En vérité, il y aurait de quoi désespérer. Il y aurait de quoi se demander si le ciel n'est pas désespérément vide. Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Eh bien, je pense que le récit de l'Ascension est d'abord là pour répondre à une interrogation fondamentale, une question que, malgré leur foi certainement plus brûlante que la nôtre, les premières communautés se posaient quand même déjà et posaient sans doute à leurs ministres. Où est passé Jésus ? Où est-il ? Quand reviendra-t-il ? Et vous voyez que du coup, ça nous rapproche du récit de l'Ascension d'Élie, qui était également destiné en premier lieu, je pense, à répondre aux interrogations « Où a disparu Élie ?» Alors le texte y répond par cette histoire, certes peu vraisemblable dans les détails, mais chargée de sens. « Homme de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ?» On dirait que les messagers sont en train de se moquer des disciples et de nous. Parce que vous l'avez compris, je pense qu'aujourd'hui, comme hier, nous sommes, comme les disciples, accablés du départ, de l'absence de Jésus, nous demandant le sens de sa résurrection si c'était pour disparaître aussi rapidement. Aujourd'hui, comme hier, nous aussi, comme les disciples et toutes les générations avant eux, debout sur nos pattes arrière, nous regardons le ciel en nous demandant où est ce Dieu à la fois si proche et si lointain. Nous aussi, nous voudrions lui dire « Alors, c'est maintenant que tu rétablis le royaume de justice et de paix ?» Et nous aussi, dans notre monde, nous devons vivre avec l'absence. On comprend que certains théologiens aient appelé la fête de l'Ascension la fête de l'absence réelle. Mais est-ce que c'est vraiment une fête alors ? Eh bien oui, je crois que malgré nos difficultés, nous pouvons vivre cette absence de manière positive. Parce que, ne serait-ce que parce qu'elle vient creuser en nous le désir de Dieu. Ce désir du Dieu que nous avons rencontré en Jésus-Christ, le Christ. Et en creusant ce désir, elle nous permet quelquefois, curieusement, de le reconnaître parmi nous, en nous. La nuée qui fait disparaître Jésus, ce n'est pas un moyen de transport. Comme dans l'Ancien Testament, c'est avant tout un espace de révélation, un espace qui permet justement la venue du souffle de Dieu, on l'a entendu, ce souffle qu'on appelle aussi l'Esprit Saint. L'Esprit qui, lui, nous aide à vivre avec l'absence et quelquefois nous aide à découvrir que Dieu est déjà à l'œuvre en nous. Il viendra sur vous et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Il viendra sur vous pour que vous me trouviez en vous alors que vous me cherchiez au ciel, pour que vous participiez vous-même à la réalité du royaume, pour accompagner vos efforts de justice et de paix. Jésus reviendra, Jésus revient, Jésus ne cesse de revenir. Il revient de la même manière que nous l'avons vu aller au ciel, non pas par la nuée magique, mais par la recherche de sa présence parmi nous, c'est-à-dire par la foi. Il est présent en nous quand nous scrutons le ciel et il est présent parmi nous quand nous sommes signes de fraternité et de justice. Il revient par la foi, par cette recherche commune à toutes les générations d'êtres humains, ce désir qui élève notre regard vers le ciel pour y trouver le sens de notre vie. Amen.